La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Prions, chers amis. Notre Père qui es aux cieux, que tu es bon, que tu es bon envers nous. Tu as donné ton seul fils engendré, Jésus-Christ, pour mourir à notre place afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu as donné ce qui était plus cher pour toi. Alors qu'est-ce que tu ne feras pas afin de sauver ton peuple en ces derniers jours? Ouvre leurs yeux. Ouvre nos yeux, bon Père. Fais-nous comprendre ta parole. Encore, je te demande de ton esprit, afin de partager, afin de parler avec ton peuple, afin qu'ils puissent voir que tu les aimes d'un amour éternel. Nous t'en remercions, mon Papa, parce que tu exauceras notre prière, parce qu'elle est faite selon ta volonté. Nous t'en prions ici, au nom de Jésus.
Amen. Comme Pasteur Boulotte, j'ai oublié de me présenter à vous. Mon nom est Mikhaïl Aubourg. Vous pouvez m'appeler frère Mikhaïl. J'habite à Gatineau, Québec. Et j'ai une famille, ma femme et ma fille qui est avec nous ce soir. Et c'est un plaisir d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée. Et puis après, nous allons avoir des questions. Et nous allons essayer de répondre à la lumière de ce que dit la Bible et l'esprit de prophétie. Le titre de la deuxième partie, c'est « Frères, que ferons-nous ?» J'ai pris ce titre dans Actes 2, verset 37. Je suis certain que plusieurs d'entre vous sont très familiers à... ce verset. C'est lors du discours du Paul après la descente de l'Esprit-Saint lors de la Pentecôte. Et après avoir discouru, les hommes qui étaient à Jérusalem ont demandé. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Chaque personne qui a écouté ce qui a été présenté depuis mardi doit se poser cette question. Et il y en aura encore demain et sabbat prochain. Et je suis tout simplement en train de vous faire réaliser qu'il y a des questions à se poser. Frères, que ferons-nous? Que devrions-nous faire avec ces informations? Nous avons tous vu les faits qui ont été présentés, spécialement hier par Pasteur Boulotte, comment la dénomination adventiste a abandonné les piliers de la foi adventiste donnée par Dieu entre 1855 et 1905. Nous avons vu hier que Dieu est aujourd'hui, de la dernière citation que nous avons lue ensemble dans Message choisi, volume 1, que Dieu a été écarté de la dénomination par les dirigeants et qu'on ne compte que sur la force humaine. Et nous avons définitivement un choix à faire. Soit s'unir dans les principes de vérité que Dieu, de sa sagesse, a donné à l'Église du reste. Est-ce que cette phrase vous est familière maintenant? Ou est-ce qu'on l'a trouvée? L'esprit de prophétie, mais ça choisit volume 1 que nous venons de lire. Et de les doctrines qui constituent les piliers de notre foi, ou soit s'unir dans l'œcuménisme en rejetant la vérité. Dans ce même livre, mais ça choisit volume 1, page 239, et je crois que c'est le même chapitre, chapitre, le fondement de notre foi. C'est le titre du chapitre 25 ou 26. L'esprit de prophétie nous dit, la vérité que nous possédons exclut tout compromis. Il n'y a aucun compromis avec la vérité que nous possédons. Et comme pasteur Boulon, je vais vous dire, est-ce qu'elle a dit que je possède? Que nous possédons. Elle parlait de la dénomination adventiste en soi. N'allons-nous pas? Elle nous pose cette question. Comme elle posait cette question aux pionniers, aux adventistes de son époque, l'Esprit du Seigneur nous pose aussi cette question ce soir. N'allons-nous pas? Personnellement et en tant qu'Église, en tant que famille, n'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité? C'est une question personnelle et une question qui concerne la corporation en général. Frères et sœurs, en 1881, dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 683, paragraphe 3, elle dit, « Nous sommes dans la vérité. Les principes fondamentaux de 1872 et 1889 qui sont arrivés après, lors de son vivant, parce que cette déclaration est en 1881, elle a dit, « Nous sommes dans la vérité. » Regardez la phrase qui vient après. C'est aussi certain que l'existence de Dieu. Elle met en question l'existence de Dieu avec la vérité que les pionniers de la foi adventiste possédaient au début. Si les pionniers étaient dans l'erreur, sa foi dans l'existence de Dieu succombait. Merci. Avec tout ce que nous avons vu depuis hier et avant-hier, si nous sommes conscients, si nous sommes convaincus que l'Église adventiste du septième jour, du temps de nos pionniers, était dans la vérité, donc nous sommes certains aussi que Dieu existe. Remarquez, Satan, avec tous ses artifices, déjà elle le voyait. Elle voyait l'ennemi travailler, pourquoi? Et sa puissance infernale pour changer la vérité. Ne peut changer la vérité divine en un mensonge. Chers amis, nous avons vu que les fondements de notre foi, les principes fondamentaux ont été changés en 1980. Ça, c'est la décision des hommes. Mais le peuple de Dieu, qui tient sa Bible dans sa main droite et a l'esprit de prophétie dans sa main gauche, pour ce peuple, la vérité ne peut être changée en mensonge. Bien que le grand adversaire s'efforce de réduire à néant l'effet de la parole de Dieu, la vérité n'en brillera pas moins de vif éclat. Que vous voulez pour vous-même accepter la vérité ou pas, cela n'empêchera pas à la vérité de briller d'un vif éclat. Dans les cœurs de ceux qui accepteront cette vérité, la vérité, et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, cette vérité brillera d'un vif éclat. Il est la lumière du monde. Cette lumière va resplendir du cœur de ceux qui ont accepté cette vérité de nos pionniers. Le premier choix est ce que Dieu veut pour nous, son peuple, le reste. Le deuxième est ce que Dieu nous met en garde et ce que Satan voudrait que nous choisissions afin de tomber dans ses pièges. Dans Deutéronome 11, versets 26 à 28, la Bible nous dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. La première génération des Adventistes du septième jour ne connaissait pas ce Dieu trinitaire qui a été voté officiellement en 1980. En allant après ce Dieu-là, chers amis, la parole nous dit, en allant après d'autres dieux, la malédiction repose sur nous. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et l'Éternel nous exhorte. Il plaide avec nous. Choisis la vie. Toi, choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et tes enfants qui viennent et qui viendront après vous. Nous devons nous unir. Et l'œcuménisme parle d'unité, d'unité, d'unité. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons nous unir. Il va tout simplement avoir deux groupes de personnes qui vont s'unir différemment. Christ nous appelle à nous unir. Mais c'est sur quelle base? La vérité. À chaque fois, je pense que... Le Christ, dans Message choisi, volume 1, page 205, paragraphe 3, sera dit, le Christ demande l'unité. Jésus-Christ l'exige. Et il ne nous demande pas de réaliser l'unité dans le mal. Voilà déjà une barrière, un prérequis. Laissez-moi utiliser cette expression de préférence. On ne peut pas s'unir dans le mal. Mais n'oubliez pas, Jésus-Christ demande l'unité. Le Dieu du ciel trace une ligne de démarcation ferme entre ce qui est pur, ce qui élève, ce qui ennoblit, et les fausses doctrines qui induisent en erreur. Il nomme le péché et l'impénitence par leur vrai nom. Il y a une expression créole qui dit « voyez roche, cachez main ». Dieu ne fait pas ça. Le péché, il l'appelle par son vrai nom. Il ne passe pas une couche de mortier sur nos méfaits. Et voilà la supplication de Sir White. Et c'est l'Esprit qui est en train de supplier à nous aussi. Je supplie mes frères de s'unir sur une base vraiment scripturaire. Et vous voyez ce vraiment-là, c'est important. Parce que l'œcuménisme vous dit quoi? Jean 17, verset 21 à 23. Il cite la Bible pour s'unir. Mais il faut que cette unité soit faite sur une base vraiment scripturaire. Afin que toutes les doctrines... On ne va pas mettre des doctrines à part de côté et puis on va s'unir. On ne va pas simplement prendre une doctrine et puis on s'unit sur cette doctrine-là et les autres, comme ils disent, au ciel, on va s'arranger. Non, il faut que toutes nos doctrines, il faut que cette unité soit basée sur la Bible. L'unique base d'unité est une base vraiment scripturaire. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas que nous portons le nom de chrétien, ce n'est pas parce que nous voulons défendre la cause des plus faibles et des malheureux. Non. La base de l'unité est un clair « ainsi dit l'Éternel ». Sinon, ce n'est pas l'unité que recommande le Dieu de la Bible. The Manuscript Releases, volume 15, page 259. Elle nous dit, nous devons nous unir, mais pas sur une plateforme d'erreur. Et nous avons vu que les piliers de notre foi étaient la plateforme de la vérité que Dieu avait donnée et à son peuple au début des 50 premières années. Nous avons un message test à proclamer, faisant référence au message des trois anges d'Apocalypse 14. Et j'ai été instruite pour dire à notre peuple, unissez-vous, unissez-vous. Mais comment? Mais nous ne devons pas nous unir à ceux qui s'éloignent de la foi. De quelle foi il parle? De la foi biblique, mais cette foi biblique a été aussi donnée à nos pionniers. En prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, nous devons aller proclamer le message sans prêter attention à ceux qui s'éloignent de la vérité. Des fois, vous savez que nous avons peur de partager le message. Qu'est-ce que les dirigeants vont penser? Qu'est-ce que certaines personnes vont penser? S'ils s'éloignent de la vérité, nous n'avons pas à prêter attention à ces gens-là. Ça, c'est le commandement, c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Allez-y, annoncez ce message test que nous devrions proclamer. Nous ne devons en aucun cas nous unir avec ceux qui s'éloignent de la foi. Suivre et s'unir à ceux qui enseignent ces nouvelles doctrines, c'est s'unir aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Qui ici aimerait être ami avec des démons? Il n'y a aucune main qui est levée. Et j'espère qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée qu'il n'y a aucune réponse positive qui est donnée dans nos cœurs aussi. Dans Review in the World, 2 janvier 1900, article A, elle dit, il vous est impossible de vous unir à ceux qui sont corrompus. On parle pas de la corruption de la chair, là. Corruption spirituelle. Et de rester pur. Impossible. Nous avons vu avec Salomon, tantôt, que Salomon pensait qu'il pouvait, de sa sagesse, il pouvait garder le peuple pur. Mais nous avons vu que, en s'alliant avec les femmes étrangères, le peuple Israël avait perdu sa pureté. Pourquoi? Parce que c'est impossible, chers amis. Lorsque nous nous unissons avec ceux qui sont corrompus spirituellement, de rester purs. À force d'écouter. Et la Bible dit, c'est en contemplant que nous sommes changés. Dieu, Christ et l'âme céleste voudraient que l'homme sache que s'il s'unit au corrompu, il deviendra lui aussi un corrompu. C'est un fait, chers amis. Vous unissez avec ceux qui sont corrompus, tôt ou tard, vous allez devenir comme eux. Vous allez devenir corrompus. C'est pour cela que Dieu a donné avertissement sur avertissement, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'esprit de prophétie. Ne vous unissez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas sur le même jour avec les infidèles. Ce n'est pas seulement une question de mariage. Des fois, on prend ce verset, on l'applique seulement au mariage. Mais spirituellement parlant, chers amis, s'unir avec les corrompus, on va être corrompus aussi. Impossible de s'unir dans l'œcuménisme et rester pur. Impossible, frère. Je le répète à plusieurs reprises, c'est impossible. Alors qu'il faut s'unir sur la plateforme de la vérité avec ceux qui se tiennent sur cette dernière, l'action opposée est aussi nécessaire. Il faut se séparer de ceux qui s'éloignent de la plateforme de la vérité. Dans Testimonies for the Church, volume 6, page 61, elle dit, l'œuvre du message du troisième ange consiste à séparer des églises un peuple qui prendra position sur la plateforme de la vérité éternelle. Et je ne vais pas cesser de le répéter. On a vu c'était quoi cette plateforme de la vérité éternelle hier. Et le message du troisième ange, c'est l'œuvre de ce message, c'est de préparer, c'est de séparer des églises. Un peuple qui prendra position fermement, inflexiblement sur la plateforme de la vérité éternelle, qui ne change pas, qui dure éternellement. Je vais essayer d'utiliser des synonymes le plus que je peux pour faire passer le message autant que je peux. Dans Review and Herald, 9 mai 1899, elle dit, même si vous ne vous sentez peut-être pas capable de dire un mot à ceux qui travaillent sur de faux principes, votre quoi? Votre retrait et votre silence peuvent faire plus que des paroles. Parce que vous savez, des paroles, des fois, vous pouvez dire des choses que vous ne devriez pas dire. Et elle est dans Review and Herald, 28 août en 1900. Elle dit, Dieu appelle ceux qui sont volontiers. Aujourd'hui, cette partie va être beaucoup plus courte. Dieu appelle ceux qui sont volontiers à sortir du milieu de ceux qui ne prendront pas position à côté de Christ. Qui est-ce qui fait l'appel? Est-ce que ce sont les hommes? Non. Et qui est-ce que Dieu appelle? Les volontiers. Dieu ne force personne. Et de même, nous ne devrions forcer personne. Mais à ceux qui sont volontiers, Dieu les appelle à sortir. Dans 1 Corinthiens 5, verset 11, nous lisons ce qui suit. Maintenant, ce que vous avez écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, se disant chrétien, est impudique ou cupide ou idolâtre, des faux dieux. Nous avons vu qu'une mauvaise conception de Dieu est aussi fatale que adorer Baal hier avec Pasteur Boulotte, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est dur, hein? Mais pourquoi? Pourquoi cette interdiction? Dans Special Testimonies, série B7, page 64, elle nous dit, je donne maintenant le message que Dieu m'a donné, à donner à tous ceux qui prétendent croire en la vérité. Vous prétendez quoi à la vérité? Voilà le message que Dieu vous donne. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sinon, leur péché, en justifiant les torts et en faussant les mensonges, continuera d'être la ruine des âmes. Pourquoi ne pas même manger avec un tel homme? C'est à cause de leur influence qui peut causer la ruine des âmes. Nous ne pouvons pas nous permettre, en aucun cas, nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est le moment que le diable est déchaîné. Il gronde comme un lion pour voir qui il peut dévorer. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être du mauvais côté, chers amis. Et dans 1 Corinthiens, je sens que je ne l'avais pas mis, mais dans 1 Corinthiens 6, versets 14 à 18, vous pouvez le lire avec moi, ouvrez vos Bibles si vous en avez, si vous avez amené une Bible. 1 Corinthiens 6, versets 14 à 18, c'est dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» De Corinthiens 6, verset 15, « Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle ?» Excusez-moi, avec l'infidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. À la question qui a été posée au début, hommes frères, que ferons-nous? La réponse nous est donnée. Je n'ai pas à venir avec une réponse. Et toutes les citations que nous avons lues étaient dans le but de pouvoir donner un élément de réponse. Dans le même chapitre, le verset suivant, les versets suivants, Pierre répond, repentez-vous. Vous vous rappelez au début de mon message, j'avais dit, en exposant et en criant comme Ésaïe 58 a dit, à plein voix les péchés de, à plein gosier les péchés de mon peuple. Vous vous rappelez que je vous avais dit ce n'est pas pour pointer du doigt ou pour condamner, mais c'est pour appeler à la repentance. Voilà le message que Dieu nous adresse ce soir. Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, qui nous écoutent, soit en Haïti, soit en France, soit aux États-Unis, soit dans les Antilles, soit en Afrique, etc., etc., en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Si Pierre pouvait le dire de la génération de son temps. Imaginez notre génération qui, la Bible nous dit, nous sommes arrivés à la fin des temps. Et Paul nous a dit, à la fin des temps, les hommes seront impies, infidèles, aimants, égoïstes, irrespectueux de leurs parents, ayant la forme de la piété, mais reniant en la puissance. Imaginez notre génération. Alors, sauvons-nous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est à nous de choisir. C'est à nous de décider si nous voulons servir l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'obéir à ses commandements. Pas 9 des 10, pas 3 des 10, mais à tous ses commandements. À toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou si nous voulons servir Baal, le Dieu de l'écuménisme, la Trinité, le Dieu de ce siècle, qui nous invite à transgresser la loi de Dieu. C'est à nous de choisir. Frères et sœurs, c'est à moi, c'est à toi, c'est à votre famille, c'est aux femmes, c'est aux maris de choisir de servir le Dieu vivant, le Dieu du ciel. Que le Seigneur nous vienne tous en aide afin d'être en mesure de faire le bon choix. Amen. Prions. Merci parce que cet amour se renouvelle à chaque matin. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel qui ne cesse jamais. Merci parce que tu nous exhortes à choisir la vie. Parce que tu veux que nous soyons à tes côtés et agir des joies sans fin que tu prépares pour ton peuple. Bon papa, nous sommes faibles. Nous sommes accoutumés à transgresser ta sainte loi. À plusieurs reprises, nous disons dans nos cœurs, nous prêtons même serment, nous faisons même des vœux. Bon papa, à partir d'aujourd'hui, nous allons t'obéir. Mais à chaque fois, nous comptons sur nos forces, nous comptons sur notre sagesse et nous désobéissons, mon papa. Mais aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que la promesse est à nous et à nos enfants. La promesse de ton Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit que tu as dit que tu mettras dans nos cœurs afin que nous puissions observer tes commandements, garder ton alliance, obéir à ta sainte loi. Nous le voulons, mon papa. Donne-nous de ton esprit. Fais-nous des enfants obéissants, des enfants de la justice, des enfants qui haïssent l'iniquité et qui aiment la bonté, la justice, qui aiment la miséricorde. Donnez-nous un amour aussi pour ton peuple, pour ceux qui périssent, afin que nous puissions les annoncer l'évangile éternel que tu nous as confié. Permet que nous puissions choisir la vérité et demeurer sur cette plateforme que tu as donnée à ton peuple au début du mouvement adventiste. Qui résistera au vent et aux marées, à quelle que soit la tempête qui s'en vienne, et afin que nous puissions rejeter cette nouvelle organisation, ces nouveaux doctrines qui ne résisteront pas aux tempêtes parce que c'est bâti, c'est construit sur le sable. C'est notre quête de ce soir. Nous voulons être tes serviteurs, tes enfants. Fais-nous grâce. Nous t'en prions au nom de Jésus qui règne, qui sert des siècles.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.